sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique Benjamin Troncin. La gourmandise ce matin est un tableau de la peintre finlandaise née en 1861, Elin Danielsson Gambogi. La toile s'intitule « Après le petit déjeuner » et figure une jeune femme fumante avec nonchalance, accoudée à une table émaillée des vestiges de son repas. Immortalisée en 1890, la créature songeuse qui expire la fumée de sa cigarette semble pourtant tout droit sortie d'un film indépendant récent sur le spleen adolescent. Sans bien comprendre pourquoi, on a du mal à croire que l'image date du 19e. Pour ceux qui voudraient la voir, un lien vous attend chaleureusement sur le site de l'émission. Scientifique, numéricienne et entrepreneur spécialisée dans les algorithmes et la modélisation numérique, notre apothicaire de l'âme partage son temps entre les États-Unis et la France et entre recherche, conseil, enseignement et écriture. Docteur en sciences des matériaux et en mécanique numérique, elle étudie entre autres à l'université Pierre et Marie Curie, Normale Sup et l'école des mines. Après une thèse portant sur l'étude d'un élastomère chargé de sa nanostructure à son macro-comportement, elle poursuit sa recherche postdoctorale et sa formation au Massachusetts Institute of Technology dans la modélisation numérique appliquée à la médecine. Je ne comprends absolument rien à la phrase que je viens de vous lire, mais avouez qu'elle a de l'allure. Cette magicienne des mathématiques se rêve chercheuse depuis ses 7 ans quand elle entend parler du MIT à la radio qu'écoutent ses grands-parents. Son désir de démocratiser l'algorithme, le code et les sciences est plus qu'en cours d'assouvissement. L'enthousiaste hypermnésique a publié en 2019 De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Et l'année dernière, l'apprentissage fait la force. Si je vous dis tout ce qu'elle a fait, il sera midi, mais voici quelques ajouts essoufflés. Elle fut aussi experte en modélisation numérique pour le groupe financier Bloomberg, mentor invité pour le Frontier Development Lab de la NASA. Jean-Michel Blanquer l'a fait entrer au conseil scientifique d'éthique de son ministère et malgré tout cela, elle a eu le temps de fonder et de diriger la société In Silico Veritas. Bonjour Aurélie Jean.
Bonjour Eva Bester.
La première question de cette émission inévitable, c'est quel est votre rapport à la mélancolie, sachant que vous nous avez écrit avant l'émission « Je ne suis pas mélancolique ».
Eh ben oui, en fait, c'est pour ça que quand j'ai reçu l'invitation, je ne savais pas quoi répondre parce que j'ai pas tendance à être mélancolique et pas non plus nostalgique. Donc j'ai un rapport, on va dire justement particulier parce que je ne ressens aucune mélancolie. Cela étant dit, j'ai quelques petites recettes pour se sentir bien, gay et éclaté de bonne humeur dans des moments parfois un peu difficiles.
Vous n'êtes jamais prise par des accès de tristesse soudain. Vous n'avez pas cette tendance.
Mais non, justement. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, ma mamie me disait tout le temps, il va falloir que t'apprennes à être triste, en fait. Parce que j'étais jamais triste, j'étais happy baby, un bébé joyeux depuis toute petite. Et voilà, ce qui m'empêche pas d'être triste, hein, mais c'est souvent des tristesses qui viennent dans les temps longs. C'est des choses qui sont pas forcément temporaires, qui vont pas durer une heure ou une journée, mais qui vont être des moments, voilà, plutôt latents, à la suite de la perte de quelqu'un qui nous est cher ou quelque chose comme ça.
Ouais. Oui, avec un réel deuil.
Voilà.
Aurélie Jean, votre optimisme que vous soulevez souvent en interview a été influencé aussi par les plus de 10 ans que vous avez passés aux États-Unis.
Oui, ouais, absolument. Parce qu'en fait, aux États-Unis, alors j'avais été éduquée comme ça, hein, je vais pas vous mentir, hein, donc j'avais quand même un socle. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on a tendance à voir le verre à moitié plein. Et comme je le dis souvent, on prend souvent l'optimisme comme une certaine naïveté en France. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et comme je le dis souvent, vous savez, l'optimisme, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est quand ça va pas bien, quand on a peu d'espoir, quand c'est difficile, que l'optimisme permet de tenir. Et que je pense que être pessimiste, c'est plutôt pour les gens qui ont la chance de pouvoir l'être. Parce qu'en réalité, bah, quand ça va pas bien ou quand ça va moyennement bien, et ben, on essaie de voir le verre à moitié plein pour essayer d'avancer, d'y croire.
Vous êtes dans la solution pratique. Vous dites aussi aux religions que vous êtes une grande râleuse, mais qu'après vos coups de gueule, il y a toujours une solution qui est proposée. Ça, c'est très américain aussi, très pragmatique dans l'action.
Exactement, parce que alors moi je suis une grosse râleuse, mais je râle jamais pour rien. Enfin, c'est ce que disent les râleurs en même temps. Hein. Mais je râle jamais pour rien, et surtout je trouve toujours une solution. Et je dis aussi aux gens avec lesquels je travaille ou même mes amis, lorsqu'ils râlent sur un truc, je dis alors maintenant quelle est ta solution ? Qu'est-ce que tu proposes ? Même si la solution est pourri, inutile, inefficace, c'est pas grave. Au moins, on part sur quelque chose pour pouvoir réfléchir et avancer peut-être vers une solution alternative.
Ouais, tourner vers la résolution au lieu de gémir, parce que le gémissement, ça peut durer toute une vie.
Exactement, voilà. Ouais. Et donc moi, j'ai un peu de mal avec ça.
Deux équipes s'affrontent à cette table aujourd'hui. En studio, Aurélie Jean, l'optimiste, et Eva Bester, la mélancolique. Chers auditeurs, tenez-vous prêts, le sommaire. Dans quelques instants, notre invité convoquera Jack Lemmon, l'épicurisme, une rupture dans l'espace-temps, des renvois d'ascenseurs, Saint-Exupéry, et presque pareil, Katy Perry, des amis Nicolas Godin, des musées l'été, et le photographe Robert Doisneau. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Let You Speak de Mead dans Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie d'Aurélie Jean et d'un savant fou légendaire.
De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle entraînant l'émergence de cette réalité alternative.
Traduction de...
Regarde, regarde, je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres.
1989, retour vers le futur 2 du génial Robert Zemeckis. Le divertissement et la réjouissance pure aux religions.
Ah mais complètement, c'est je crois que la scène la plus excitante du cinéma américain.
Mais alors pourquoi cet extrait précis?
Alors déjà parce que bon, alors moi c'est l'un de mes films préférés, je l'ai eu au moins plus de 50 fois en anglais, en français. Et c'est, en plus j'étais folle de Michael J. Fox comme beaucoup de jeunes filles de ma génération lorsqu'on avait 10 ans, enfin bref voilà. Et alors pourquoi cette scène? Parce qu'en fait j'ai mis du temps à la comprendre. C'est-à-dire qu'on la comprend, il y a différents niveaux de lecture de cette scène au fur et à mesure qu'on grandit. Vous avez parlé du Petit Prince et pour moi c'est pareil en fait. Et en fait cette scène je la trouve excitante parce que grosso modo il parle quand même de science, de courbe du temps déformée dans l'espace-temps.
Est-ce que vous pouvez remettre en contexte pour les auditeurs qui n'auraient plus
pardon,
le film en tête?
Bien sûr, oui. Alors, Retour vers le futur est l'histoire d'un docteur qui a créé une machine à voyager dans le temps. Et là, on écoute en fait, c'est le numéro 1, hein, je crois, ou numéro 2, où justement, je crois que c'est le meilleur en plus, enfin, pour moi c'est le meilleur, le numéro 2, le numéro 3 est un peu moins bien, et dans le numéro 2, justement, pour un incident que je ne vais pas forcément évoquer, parce que ça va pour laisser la surprise aux éditeurs, en tout cas, il pense revenir en 1985, et ils reviennent dans un 1985 un peu particulier, qui est dans une autre ligne du temps, dans l'espace-temps. Et donc ils se retrouvent voilà, dans une vie qu'ils ne comprennent pas, dans un monde qu'ils ne comprennent pas, avec des repères complètement loufoques. Donc voilà, donc il faut le voir. Et dans cette scène, donc le doc explique à Marty McFly, lui explique pourquoi il est dans une année 1985 qui n'est pas l'année dans laquelle il est normalement.
Et qu'est-ce que ça évoque chez vous, ça, Aurélie Jean ?
Les sciences.
En tant que scientifique, justement. Est-ce que le fait de voir... Parce que j'imagine que vous n'avez pas la même appréhension des choses que les gens qui n'ont pas une formation scientifique. L'algorithme, c'est... En gros, je vais le dire très vulgairement, mais diviser pour mieux régner, c'est ce que vous expliquez dans votre...
Entre autres,
évidemment, dans De l'autre côté de la machine. J'imagine que quand vous appréhendez les choses, vous les classez immédiatement, je sais pas, vous les scannez, je vous imagine comme un robot.
Alors, je ne suis pas psychorigide, je rassure les gens.
Un robot super sympathique.
Voilà, je suis un robot super sympathique et hyper relaxé, cool. Non, mais c'est vrai que moi, je suis toujours dans ce truc d'optimisation, je réfléchis tout le temps, j'essaie de, et surtout, j'aime pas perdre mon temps. Alors ça, par contre, j'ai un énorme défaut, c'est que je suis ultra impatiente de ce fait. Et j'aime beaucoup l'optimisation. Et d'ailleurs.
Vous rentabilisez tout
voilà.
le temps.
Et c'en est un point, c'est que je pense à avoir écrit énormément de petits codes informatiques, ce qu'on appelle des scripts, pour automatiser des tâches sur mon ordinateur. Dès que je faisais une tâche plus de deux fois, j'étais là, ok, ça doit être automatisé. Voilà. Et donc cette scène, pour moi, elle révèle beaucoup de choses. Et puis c'est une manière de valoriser la science sur le grand écran, avec des personnages attachants, déconnectés d'une réalité qui est la nôtre, enfin celle de la plupart des gens, mais en tout cas, qui existe et ça fait bien marrer les gens. Et même si on comprend pas la scène, parce que moi je l'ai pas compris forcément quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, mais je l'ai compris de plus en plus au fur et à mesure des années, et bien sûr aujourd'hui je comprends.
Aurélie Jean, on vous imagine aisément en héroïne de Zemeckis, d'ailleurs qui sortira un Pinocchio prochainement, on a hâte. Et Retour vers le futur, je ne peux pas m'empêcher de penser au futur et aux prédictions, puisque vous avez cofondé une start-up d'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine de précision. Vous imaginez ce qu'il peut se passer en le modélisant?
Oui. Alors ça, c'est l'un des... Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on développe un algorithme, qu'on fait de la modélisation, de la simulation numérique sur ordinateur. C'est pour répondre à une question. Par exemple, est-ce qu'il y a un chien ou pas sur cette photo?
Oui, j'espère que oui. J'espère qu'il y a un chien sur cette photo.
On adore les chiens.
Oui.
Et puis il y a aussi de répondre, de comprendre des mécanismes. Et puis il y a de faire des prédictions, ce que j'appelle aussi des anticipations, parce que le mot prédiction peut faire peur aux gens. Donc je travaille en ce moment aussi sur la médecine de précision dans le cadre de cette société DeepX, où en fait on va identifier, détecter et localiser 3 ans avant de voir une tumeur de cancéreuse. Sur une mammographie, on est capable de la détecter, de la localiser dans le tissu mammaire 3 ans avant. Et voilà, donc on a développé ça. C'est un petit projet de recherche qu'on avait depuis 1 an et demi. Et donc ça marche bien et donc on est en train de la faire grandir. Voilà, on espère que ça va marcher. Voilà.
Bravo.
Merci.
Fuck Them All de Mylène Farmer. Pour nous plonger dans l'atmosphère d'une de vos idées anti-spleen aux religions, la première est de votre mère américaine Jane Kranz. Kranz, qui résume assez bien votre philosophie de vie, dites-vous. Fuck them all, je vous laisse traduire.
Oulala, faut que je dise en français, c'est très vulgaire.
Alors, on imagine.
Qu'ils aillent tous se faire foutre.
Ah, pas mal, pas mal.
Ça va?
Oui, vous avez trouvé un entre-deux, c'est parfait.
Voilà.
Mais alors, qu'ils aillent tous se faire, donc voilà, sans méchanceté ni colère, parce que je vous soupçonne d'être altruiste.
Ah oui, non, je suis complètement altruiste. Enfin, attention, hein, faut pas non plus me chercher
des noises.
Voilà, faut pas non plus qu'on pense que je suis naïve. Hein. Mais oui, non, moi je suis hyper altruiste. Et surtout, le fuck them all, en fait, c'est une phrase de Jane Cranston, qui est ma mère américaine, ma famille d'adoption à Los Angeles, depuis plus de 10 ans maintenant. Et Jane m'a sorti cette phrase il y a 3 ans exactement, deux ans et demi, où en fait, voilà, j'avais une décision importante à prendre et je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Elle m'a fait, you know what? Elle m'a fait, tu sais quoi? Ne t'intéresse pas à ce que les gens vont penser, ne t'intéresse seulement à toi, ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, et intéresse-toi aux gens que tu aimes, et c'est le plus important. Et tu sais quoi, pour les autres, fuck them all.
Et voilà. Aurélie Jean, est-ce que vous y arrivez aisément à vous détacher du jugement des autres, ou est-ce qu'il faut s'entraîner? C'est une gymnastique mentale.
Bah, c'est dur, je vais pas vous mentir, c'est dur, mais petit à petit on y arrive, et je pense que le secret, c'est de s'entourer d'amis chers qui sont là, qui vous évaluent à la juste mesure, qui savent vous dire quand vous faites mal aussi, mais en tout cas, voilà, qui ont la bonne critique et pas la méchanceté facile. Voilà.
Dans les autres idées qui vous appuient, il y a l'épicurisme. Et je vous cite, pour ne jamais regretter le passé, ne jamais envier ou trop se projeter dans le futur. Vous en parlez dans votre ouvrage « L'apprentissage fait la force ». Vous citez la lettre à Ménécée d'Épicure.
Bien sûr.
Alors, ça a été écrit après la pandémie, donc le contexte était un peu particulier. Oui. Vous disiez, par la force de la situation, nous devenons tous épicuriens.
Ouais, moi j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que, alors comme je l'ai dit au début, je suis pas très mélancolique, pas très nostalgique. Moi, je regrette jamais le passé. C'est pas du tout, et je me projette pas trop dans le futur parce que je me dis, on peut toujours être déçu en fait, et je préfère toujours être agréablement surprise que profondément déçu. Voilà. Et donc c'est vrai que l'épicurisme, j'aime beaucoup parce que on est obligé de se concentrer dans le temps présent, d'être en harmonie avec son temps présent. Et souvent, moi, je m'arrête, je regarde autour de moi, je me dis, ok, là, on est bien, il se passe ça, je suis avec telle personne, je suis dans tel décor, et je suis bien. Et on le fait pas souvent. Le temps présent est le seul temps qui nous échappe. Et je trouve qu'on n'arrive pas à l'apprécier correctement. Et on est toujours en train de penser à ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans un an, ou encore à ce qu'on a fait il y a 2 ans. Et je trouve ça un peu dommage. Et donc, pourquoi l'épicurisme avec cette crise? Parce que, enfin, je sais pas pour vous, Eva, mais moi, il y a un an, on savait pas trop où on allait, on savait pas trop ce qui allait se passer.
Moi, je vais vers la mort.
Ah ouais.
Je sais toujours où je vais.
Et donc, par conséquent, on était encore encore plus épicurien par la force des choses, parce qu'on était obligé de se concentrer dans le présent pour pouvoir l'apprécier, être en harmonie et être bien. Voilà.
Êtes-vous d'un tempérament anxieux, Aurélie Jean?
Parce que quand je suis une fausse,
présent, ouais, ça a l'air
je suis une fausse sage et calme et apaisée. Je suis apaisée, je suis en paix, si vous voulez, si on utilisait ce mot-là. Mais je suis toujours un petit peu anxieuse, ce qui est normal, quoi. Mais après, je relativise énormément, parce que je me dis, en fait, j'ai tellement traversé de trucs dans ma vie personnelle, et je me suis dit, la phrase que les Américains adorent, it's gonna be fine, tout va bien se passer, voilà, et je me le répète.
Cet optimisme, ouais. Mais qui permet en même temps, en science on l'utilise constamment, puisque les plus grandes inventions, absolument, si on n'avait pas un peu affabulé en imaginant que ça pouvait marcher, on les aurait jamais réalisées.
C'est une très bonne remarque, et ce qui va d'ailleurs avec la prise de risque. Voilà, c'est-à-dire que même si je pense prendre plus de risques dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, mais c'est vrai que, voilà, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Qu'on nous dise non, que ça marche pas, c'est pas grave, on va pas mourir, quoi.
Ce sera toujours moins terrible que de ne rien faire.
Exactement, et il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est il faut pas, parce que c'est un de mes anciens professeurs du MIT qui me disait, Raoul Radovitsky, laisse les autres fermer la porte pour toi, ne la ferme pas. Donc tente, frappe à la porte et laisse les autres la fermer à ta place.
Voilà. D'ailleurs, Aurélie Jean, je crois que votre grand-père vous répétait que vous ne deviez penser ni à votre genre ni à votre classe sociale, oui, pour choisir ce que vous vouliez faire. C'est un message vraiment très très chouette à dire à une petite fille.
C'est hyper important. Et quand ça vient des parents, c'est d'autant plus important. Et souvent, moi j'ai eu des grands-parents qui étaient magnifiques et féministes. Et mon grand-père est extrêmement féministe. Et du coup, ouais, il me répétait ça tout le temps parce que j'étais une femme et que je venais d'une plutôt de classe moyenne. Et c'est vrai que mon grand-père me disait, tu réfléchis pas à d'où tu viens, tu réfléchis pas à ton genre, si t'es une fille ou un garçon, tu fais ce que tu as envie de faire, et je pense, vous savez, je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait après, et gros, moi à chaque fois j'ai rencontré des femmes qui avaient des parcours assez pas des parcours, si je puis me permettre de dire ça, hein, mais pas très féminins, en tout cas en apparence, si on se base sur les statistiques, hein, ce qui ne veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire, bah c'est souvent des femmes en fait qui ont eu des parents assez forts en fait, quoi, qui ont eu des messages forts et des papas ou des mamans assez présents, quoi.
Love is their whole happiness. It's all so easy. Try a little tenderness. tenderness. You won't regret it. Just try a little tenderness.
Try a little tenderness de l'acteur Jack Lemmon, qui est aussi l'auteur d'une citation que vous affectionnez aux religions. Vous l'avez mise en exergue de votre livre De l'autre côté de la machine. Je vous laisse nous l'énoncer en version originale et je la traduirai.
Alors la citation est la suivante, « No matter how successful you get, always send the elevator back down. »
Peu importe votre succès, renvoyez toujours l'ascenseur. Aurélie Jean, vous aidez tous ceux qui vous ont aidé un jour ou l'autre?
Alors, je n'aide pas ceux qui m'ont aidé, parce que souvent c'est des gens qui n'ont pas forcément besoin d'aide. Par contre, j'aide ceux qui ont besoin d'être aidés, qui ont du talent, qui ont des idées, et qui, pour des raisons X ou Y, ne vont pas forcément être au bon endroit, au bon moment. Et voilà, et moi je pense que les gens, vous savez, les gens qui disent qu'ils ont réussi seuls, c'est des naïfs ou des menteurs. Parce que je pense qu'on réussit toujours grâce au cadre familial, au cadre personnel, aux professeurs qu'on a rencontrés, aux gens qu'on a croisés dans notre vie, à nos amis, etc., etc. Et donc, voilà, le mérite, c'est quelque chose qui se partage.
Une association.
Voici que descend le soir, fait de grands doutes et d'espoir, de secousses passagères et de pénombres familières. Je serai debout et face au vent, pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. C'est un dernier bal qui se traîne sous un ciel maudit de carême. Serait-ce un phare ou ton signe sur lequel enfin je m'aligne. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Raptures, raptures, raptures.
Marquis et Étienne Dao, je n'écrirai plus souvent dans Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie d'Aurélie Jean. Comme baume littéraire, vous avez choisi l'un des livres français les plus connus autour du monde. Un livre paru à New York, d'abord en anglais en 43, que vous relisez chaque année. Vous êtes un peu obsessionnelle, Aurélie Jean. Vous avez des boucles spatio-temporelles, si comme dans Retour vers le futur. C'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Pourquoi est-ce que vous le relisez tous les ans?
Parce que je crois que c'est paradoxalement une œuvre très compliquée. Complexe. C'est-à-dire que en apparence simple, mais avec tellement de niveaux de lecture, qu'en fait, je vous assure, faites le test. Relisez-le. Alors, peut-être pas tous les ans, tous les deux ans. Ah, c'est pas grave, j'irai pas vérifier. Mais si vous le relisez, vous verrez que vous comprenez à chaque fois une chose différente. Pourquoi? Parce que c'est basé sur votre expérience, sur ce que vous avez vécu dans l'année. Et voilà. Et moi, je comprends toujours un truc un peu différent.
Vous avez choisi de nous lire un extrait lié au rêve et à l'ambition dans le chapitre 2.
Oui. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme, tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts.
Aurélie Jean, pourquoi cet extrait?
Parce qu'en fait, alors pour le coup, je ne l'ai pas compris tout de suite. Hein, ça a mis quelques années avant de comprendre ce que Antoine de Saint-Exupéry veut dire ici. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, les enfants dessinent. Tous les enfants dessinent. Ils arrêtent de dessiner, on va dire, autour de l'âge de 10 ans. Et vous remarquerez qu'il y a un effet qui est sûrement implicite. Hein, seuls les enfants qui savent dessiner ont le droit de continuer de dessiner. Et moi, moi je dessine. Hein, c'est pour ça que je le dis et je fais du fusain. Je fais du dessin au fusain, des nus au fusain. Et je regrette en fait que le dessin ne soit offert qu'à des gens qui savent dessiner. Alors que le dessin est un moyen de s'exprimer comme beaucoup d'autres. Et vous remarquerez, c'est autour de 10 ans en fait, où les enfants arrêtent de dessiner. Et c'est là, c'est ce qu'exprime en fait le petit prince dans ce passage. Et donc j'ai envie de dire à tous les parents qui nous écoutent, laissez vos enfants dessiner après l'âge de 10 ans, même s'ils ne savent pas dessiner, peu importe.
Aurélie Jean, Le Petit Prince, c'est aussi une réflexion sur la richesse du monde intérieur, sur les voyages. Là, je ne peux pas pas penser à Retour vers le futur. Enfin, on change de planète, de temps. Et le regard enfantin. Et ça m'a frappée parce que dans De l'autre côté de la machine, vous dites à un moment au sujet d'une rencontre, vous dites « il avait un cœur d'enfant comme moi, on allait bien s'entendre ». Et c'est ce que illustre aussi Le Petit Prince. Il faut ce regard qu'on pourrait dire naïf, mais en fait c'est la condition initiale, même du scientifique à nouveau, de partir sans préjugés, sans biais.
Sans biais, et alors je parlais de Ryan Flannery dans le livre justement qui était mon boss à Bloomberg et qui devenait un très bon ami. Et en fait, c'est pas de la naïveté. C'est la capacité à accepter d'être ébloui à n'importe quel moment par n'importe quoi.
La disponibilité
émotionnelle et l'ouverture. Ouais, et moi, on m'a quelquefois dit, mais t'es naïve. Mais t'es un peu naïf quand même, parce que je peux avoir les yeux qui brillent pour n'importe quoi. Mais moi, je pense que c'est ce qui fait que je m'ennuie pas, déjà. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, je suis disponible. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Et dans les sciences, c'est très important, parce que ça vous permet de ne pas réfléchir avec des œillères, mais au contraire, de voir le monde à 360 degrés et d'éviter les biais, comme vous l'avez très bien dit. Parce qu'on voit les êtres et les choses sous nos propres prismes, selon notre culture, notre genre, notre orientation sexuelle, notre religion, etc. Et que donc il faut garder cette ouverture et d'écouter tous nos sens éveillés pour accueillir le monde et l'univers.
Voilà. J'ai utilisé le mot biais, mais vous me l'avez soufflé de façon tacite aux religions, puisque vous l'utilisez beaucoup dans De l'autre côté de la machine pour les biais algorithmiques. Je laisse les auditeurs découvrir de quoi il s'agit, mais ça nous concerne tous. Il paraît que vous avez un autre livre de chevet, c'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, pour la curiosité, puisqu'on décrit Alice comme extravagamment curieuse. Ouais. Et vous vous reconnaissez?
Ah, mais complètement. Parce que moi, depuis toute petite, sauf à la maison avec mes grands-parents, mais quand j'étais toute petite, j'ai toujours entendu la curiosité est un vilain défaut. Pourquoi es-tu curieuse? Pourquoi? Mais vraiment, à l'école, après, même plus tard, à 30 ans, bientôt 39 ans. Et en fait, la curiosité n'est pas un défaut. Enfin, il faut vraiment arrêter avec ça. La curiosité est une belle qualité. Ce qu'il faut, c'est transformer cette qualité en essayant justement d'alimenter notre curiosité en apportant des réponses aux questions qu'on a. Et c'est ça qui est important. C'est pas tant être curieux et ne pas chercher à avoir des réponses, c'est d'aller chercher les réponses à nos questions. Donc la curiosité, c'est une belle qualité, il faut le dire, le redire, parce que j'entends trop souvent, et je le dis dans le livre, hein, plusieurs fois, on m'a reproché en tout cas... peut-être que les gens n'osent plus me le dire, maintenant je suis grande, mais que voilà, que la curiosité est un vilain défaut, et c'est pas un vilain défaut. Enfin, on peut poser toutes les questions, après il y a peut-être des moments, et puis on peut tout à fait des moments pour les poser, puis il y a peut-être des gens qui vont nous dire bah je n'ai pas envie de répondre à cette question, mais c'est pas grave, mais faut le dire. En fait on mélange curiosité et questions mal placées, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, la curiosité, non, c'est génial de vouloir comprendre ce qui se passe autour de nous.
Sortons de nos loupes et soyons des détectives existentiels assumés. Aurélie Jean, la première mélodie sur laquelle il vous est impossible d'être triste, c'est un morceau de 2015, Club 9 par Nicolas Godin, qui fait également partie du groupe R, morceau extrait de son album Contrepoint et qui rappelle au tout début, là on n'a pas entendu le début, mais le fameux Take 5 de Dave Brubeck. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous écoutez ça? Vous êtes dans quel état d'esprit?
Alors, j'avais jamais fait le rapprochement avec le Take 5, donc merci, c'est vrai. Bah, moi j'adore la musique de Nicolas Godin. J'ai découvert Nicolas Godin à travers Contrepoint. On se connaît personnellement maintenant et j'adore ce qu'il fait, j'adore son état d'esprit. Ça, et puis, il y a un soin de Los Angeles, en fait, dans ce qu'il fait aussi. Et même si on connaissait tous R, mais je ne connaissais pas Nicolas Godin. Et moi, ce que j'aime dans sa musique, en fait, c'est, déjà, il n'y a pas de parole et ça, moi, ça m'aide à me concentrer. Et puis, je trouve ça très enjoué. Enfin, ça donne envie de sourire. D'ailleurs, enfin, les auditeurs ne le voient pas, vous avez souri en écoutant ce morceau.
C'est parce que vous êtes là.
Ah, c'est parce que je suis là.
Votre second antidote musical nous plonge dans un registre bien différent. Il date de 2013. C'est Roar, rugir en anglais, de Katy Perry. Son 8e morceau classé numéro 1 aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot dessus avant qu'on ne l'écoute?
Bah, c'est la consécration de Katy Perry. Enfin, c'est vraiment, moi, je conseille à tout le monde, homme ou femme, hein, peu importe, d'écouter ce morceau quand vous avez besoin d'avoir de l'énergie, d'avoir de Eye of Tiger, et puis après regarder Rocky éventuellement, hein, mais voilà, parce que c'est un morceau qui donne de l'énergie, qui donne la force, et Fuck Them All.
Bah oui, parce qu'en fait, vous connaissez le clip, j'imagine,
oui.
Les gens.
Bah oui.
Vous pouvez le raconter?
Bah, dans le clip, justement, c'est cette femme qui se retrouve dans la jungle et qui va se battre et qui va qui est qui devient une petite sauvageonne pour tacler tous les obstacles sur son chemin, et je pense qu'on peut dire qu'on a une sorte de vie comme ça de temps en temps, ouais. I fell for everything. You held me down, but I got up. Oh.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Aurélie Jean, dont l'activité consolatoire consiste à traîner les pieds nus dans les musées un jour de grosse chaleur. Parce que souvent, il y a un carrelage froid, c'est ça?
Oui! Et ça a été mon expérience en 2006, je crois, quand j'étais partie à Milan avec un ami. Et il faisait tellement chaud, on traînait dans les musées, et je me suis dit, j'enlève mes chaussures, j'en peux plus. J'ai vu son petit air un peu de jugement, et moi je l'ai quand même fait, et depuis je le fais, et j'adore enlever mes chaussures dans les musées quand il fait chaud, parce que c'est agréable, et on est plus en connexion avec le musée, j'ai remarqué.
Mais alors, il faut faire un palmarès. Quels sont les meilleurs sols de musée pour marcher pieds nus?
Alors, Milan, c'est sûr, parce qu'il y a des, il y a des sols marbrés, donc c'est super. Le MoMA moyen, un peu pas très froid le sol, hein, je le dis. Non, c'est dans des très vieux musées. Vieux musées, pas les nouveaux, les vieux.
Et en France?
J'ai pas osé faire le musée d'Orsay. Faut que je le fasse. Pieds nus, j'entends, je l'ai fait.
Oui, oui, bien sûr.
Mais ouais, j'ai pas non plus tout le temps. Ouais. Tiens, ça va être un challenge. Mon prochain défi, c'est d'être pieds nus au musée d'Orsay.
Je vous enverrai la photo.
D'accord.
Je refuse de montrer le côté noir de la vie. J'aime pas la laideur. C'est-à-dire que sinon, ça me fait physiquement mal. Je veux dire que quand on dit Eureguet, ça évoque un petit peu la grosse rigolade de fin de banquet. Ça, j'ai horreur de ça aussi. Mais la petite mélancolie, l'attendrissement, là, c'est peut-être des valeurs mineures, mais sont celles qui m'émeuvent le plus.
Le photographe Robert Doisneau sur France Culture en 1982. Il est l'auteur d'une photo prise à Palm Springs qui vous réjouit, Aurélie Jean. Détente pastel, un cliché de 1960, année où Doisneau se rend aux États-Unis pour la première fois afin de réaliser un reportage sur la construction des golfs de Palm Springs pour le magazine Fortune. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce cliché?
Alors, déjà, il y a deux choses qui me plaisent dans ce cliché. Déjà, premièrement, Robert Doisneau, les gens ne le connaissent pas pour ses clichés de Palm Springs. Ils sont des clichés en couleur.
Oui.
Les gens le connaissent pour des clichés, moi dont je suis pas super fan, les amoureux de Paris, des choses comme ça. Moi, j'adore ces clichés de Palm Springs, ils sont sublimes. Et cette photo en particulier que j'aime beaucoup, des temps de pastel, où en fait, on voit un homme, on voit pas très bien son visage, on voit pas son visage du tout d'ailleurs, on le voit assis sur un meuble Scooby-Doo. Et j'adore les meubles Scooby-Doo, parce que ça me rappelle les fauteuils de mon poids.
Alors, qu'est-ce qu'un meuble Scooby-Doo?
Ah, pardon. Alors, c'est un meuble. Vous voyez le Scooby-Doo? Vous avez fait des Scooby-Doo quand vous étiez plus jeune?
Bien
je sais pas
sûr.
Si ça existe encore, mais on faisait des Scooby-Doo avec du fil un peu caoutchouteux,
oui,
plastique.
Exactement.
Voilà, plastique, pardon, pas caoutchouteux, mais plastique. Et ben, en fait, ce sont des fauteuils avec des tubes en acier et avec le dossier, le siège, donc qui est fait avec des fils de Scooby-Doo. Voilà ce qu'on appelle.
Oui, des lanières très
voilà.
Fines.
Et donc là, c'est des lanières rose pastel. Un homme assis avec élégamment habillé, avec une jambe qui pliait sur sa cuisse. On voit pas son visage, mais on voit au fond en fait une vue de sa villa à Palm Springs. Et c'est un endroit, Palm Springs, j'y étais il y a pas très longtemps, et c'est juste un endroit magique. Voilà.
Il est en mocassin, encadré par deux palmiers. Mm-hmm. Palm Springs, à cette époque, en tout cas, c'était le refuge des riches retraités américains dans le désert de Californie. Est-ce que vous avez ressenti les mêmes atmosphères en y allant? Parce que vous savez, parfois, il y a le côté légendaire des photos, puis quand on y est...
Alors, deux choses. Il y a encore des retraités riches. Hein, oui, bien sûr.
Je suis rassurée.
Voilà. Il y a quand même encore. Mais disons que ça a beaucoup changé. C'est extrêmement jeune aujourd'hui. Les villas, il y a toujours des villas. Moi, c'est ce que j'adore. Les villas des années 50, 60. Pour moi, c'est le plus beau moment architectural du XXe siècle. Et donc ces belles villas qu'on voit dans les photos de Robert Doisneau. Donc, on conseille les gens d'aller regarder dans un moteur de recherche des photos, dans un livre. Et puis après, voilà, c'est très très jeune. C'est extrêmement gay friendly. Moi, j'adore. Enfin, c'est hyper ouvert, donc ça a changé quand même, hein. C'est beaucoup moins conservateur que ça a pu l'être.
Il y a d'ailleurs un livre, Robert Doisneau, Palm Springs, 1960, aux éditions Flammarion, avec un texte de Jean-Paul Dubois. Vous savez, Aurélie Jean, que vous avez un point commun avec Robert Doisneau?
Oh, lequel?
Vous êtes tous les deux des collaborateurs du magazine Le Point, mais lui, un autre point, la revue artistique et littéraire fondée en 1936, et vous, c'est Le Point, créé en 72. Mais ça s'appelait Le Point quand même.
C'est dingue.
Voilà, on ne m'invite plus du tout aux anniversaires, je ne sais pas pourquoi. Vous vivez en Californie, je crois.
Je vis en grande partie à Los Angeles, ouais, en Californie.
Visuellement, il y a des choses similaires avec l'univers de Doisneau?
Ah,
esthétiquement.
Esthétiquement, oui, la lumière. Il y a une lumière à Los Angeles qui est... C'est difficile à décrire, en fait. C'est une lumière un peu rose. Elle change déjà au fur et à mesure de la journée. Il fait jour très tôt à Los Angeles. Il fait nuit tôt aussi. Et puis, il y a cette couleur, en fait, qui est assez... On ne sait jamais quelle sera la couleur du ciel. Et pour faire des photos, moi, je fais un peu de photos. Alors, pas du tout comme Robert Doisneau, hein. Je calme les gens, mais pas du tout, loin de là. Mais voilà, mais j'aime faire de la photo là-bas parce que la lumière est assez incroyable, les couleurs. Hein. Et puis, l'élégance. Même si on peut, en journée, se balader en short ou en legging avec des baskets, eh bien, le soir, on s'habille joliment et on retrouve ça, en fait.
Aurélie Jean, vous nous avez soumis un remède bonus. Je vous cite, les amis sont le meilleur remède à la mélancolie. Je pense au Petit Prince, puisqu'il y a cette fameuse scène magnifique avec le renard qui nous a tous fait pleurer, où il apprivoise un renard, il veut aller un peu trop vite en besogne, en amitié. Le renard lui dit chaque jour, on s'approchera un peu plus, mais il faut prendre son temps. Est-ce qu'on peut dire que l'amitié, c'est la famille choisie?
Ah, complètement. Enfin, pour moi, ça l'est d'autant plus que voilà, c'est très important pour moi, mes amis. Ouais, et les amis, ça se mesure dans la durée. C'est important. Parce qu'en fait, c'est facile d'être là quand ça va bien. Il faut juger les amis quand ça va pas bien et qu'ils sont là pour nous. Et que nous aussi, de voir notre capacité à aider les autres et nos amis à passer des caps parfois difficiles. Donc, ouais, l'amitié, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Même plus que l'amour.
Ouais, oui, mais ça dure plus longtemps souvent.
Et sont loyaux.
Je ne développerai pas ce que je soupçonne que cette phrase implique. Vous avez beaucoup d'amis ?
Alors, j'ai beaucoup... Vous savez, pour moi, il y a plusieurs cercles d'amis. Le cercle proche, c'est ceux qui savent tout de moi. Quand je dis tout, souvent, je fais la blague, c'est ceux qui viennent chez moi et qui ouvrent mon frigo sans me demander. Voilà, eux, c'est le premier cercle. Et il y en a pas mal, mais qu'est-ce qu'ils sont bien ? Vous savez, quand on me demande de quoi tu es la plus fière dans ta vie, je dis toujours mes amis. Parce que je pense que je suis bonne pour les choisir.
J'aimerais terminer par une question qui n'apparaît pas, en tout cas dans vos choix Aurélie Jean, mais j'ai vraiment très envie de savoir. Est-ce que le fait de s'absorber dans des codes, dans du numérique, dans des mathématiques, dans cette abstraction que moi personnellement je trouve très belle, est un remède à la mélancolie dans le sens où c'est une beauté froide, il n'y a pas d'émotion dedans. Enfin, il y a une émotion, une jubilation quand ça fonctionne. Mais par exemple, quand on lit Tolstoï pour se distraire, si on a un chagrin d'amour, ça peut mal se passer. Alors que dans des codes... On est coupé de ça.
Alors, vous avez raison, et je m'étais jamais posé la question, donc c'est intéressant. Je pense que ce qui est exaltant dans ce que je fais, c'est pas tant de le faire, c'est le résultat, comme vous l'avez très bien dit. Enfin, quand on arrive à résoudre un problème, et que ça marche, mais on est au septième ciel, quoi. C'est un orgasme émotionnel et intellectuel. Voilà.
Et quand vous êtes en train d'essayer de le résoudre, il n'y a pas de place non plus pour la tristesse ou l'abattement.
Non, parce que Eye of Tiger, alors n'oublions pas la chanson de
Katy Perry.
L'œil du tigre. Donc c'est vrai que non, puis je pense que surtout ça apporte une humilité. Enfin, en général, mais c'est bon, ça après c'est moi, hein, parce que je pense que si j'étais un génie qui réussissait tout, peut-être que je ne réfléchirais pas comme ça, mais en tout cas, parce que ça marche pas tout le temps, parce que je dois refaire, parce qu'il y a des erreurs, parce que, en fait, ça apprend l'humilité, et donc ça nous rappelle notre petitesse face à la grandeur de ce monde.
Aurélie Jean, est-ce que justement les réflexes que vous avez en tant que scientifique dans votre métier vous servent pour les autres domaines ?
Ah mais complètement. Par exemple, dans le livre, je parle du triage de pommes.
Et oui, ça, c'est votre premier algorithme. Ouais. Est-ce que vous pouvez le raconter brièvement aux auditeurs?
En fait, et ça peut fonctionner pour plein de choses, hein, comme le triage de chaussettes. Hein, je le dis aux gens parce qu'on n'a pas tous des pommiers. On porte tous des chaussettes, enfin à peu près. Hein. Lorsque vous devez trier des pommes, donc ça, c'est une histoire que je raconte. J'étais avec mon grand-père dans notre maison
à 13 ans.
À 13 ans, Illiers-Combray, en Eure-et-Loire. Et en fait, dans le Perche. Et en fait, on devait.
La maison. Enfin, c'est le village qui a changé de nom grâce à Proust.
Bien sûr, oui, c'était... moi, j'ai visité la maison de Proust, voilà. Je vivais à côté de la maison de Proust.
C'est ce qu'il m'a dit.
Exactement. Et donc, c'est le Combray de Proust, vous avez entièrement raison. Et en fait, donc on avait des pommiers et on récoltait les pommes. Et en fait, il fallait trier les pommes, les plus petites pour les garder, pour les manger au couteau, les plus grosses pour faire de la compote. Eh bien, moi, je voulais les trier un peu à la bourrin, hein, c'est à la bourrine, je sais pas comment on dit. Enfin, c'est-à-dire les comparer deux à deux. Et mon grand-père m'a dit, mais non, on fait pas ça. Tu vas faire des sacs de pommes aléatoires et tu vas les trier indépendamment les unes des autres. Enfin, les sacs
dans chaque sac.
Voilà, dans chaque sac, tu vas les trier de la petite à la plus grande. Et après, tu vas ce qu'on appelle. Alors, je me souviens plus des mots que papy avait utilisés, mais tu vas fusionner les sacs. Tu vas rassembler les sacs. Je pense que c'est peut-être un terme comme ça qu'il avait dit, mais mathématiquement, on appelle ça fusionner. Tu vas fusionner les sacs en comparant la plus grosse pomme d'un sac avec la plus petite de l'autre. Et si la plus grosse d'un sac est plus petite que la plus petite de l'autre, eh bien, vous avez déjà fusionné les sacs. Etc. Donc ça permet, grosso modo, et je conseille les gens d'aller lire le passage, c'est un peu compliqué comme ça, d'aller relire le passage du livre, mais c'est une manière de minimiser le nombre de comparaisons des pommes deux à deux, et donc on va beaucoup plus vite.
On fait moins d'opérations.
Exactement.
Et c'est ça un algorithme.
Et ça, vous le faites dans votre vie. Moi, j'ai un petit exemple, hein, ce que je fais, parce que je me l'applique, pour trier mes reçus de cartes bancaires. Voilà. Pour les trier, avant je le faisais tous les mois. Sauf que ça avait un tas énorme, et maintenant je le fais toutes les semaines. J'ai des petits tas toutes les semaines et je vais beaucoup plus vite.
Vous l'avez vraiment vu ?
Ouais.
Bon, on va essayer de le faire alors.
Bah allez-y.
D'accord. Alors bon, j'aurais préféré qu'on me donne une autre activité possible. Aurélie Jean, merci beaucoup d'être venue dans cette émission. On peut lire vos chroniques consacrées aux sciences et aux technologies sur le site du magazine Le Point. De l'autre côté de la machine et l'apprentissage fait la force sont parus aux éditions de l'Observatoire, qui publiera également en octobre votre prochain livre qui porte sur les algorithmes et la loi. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. Nous sommes comme toujours sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme a le charisme d'un éclair aux sourcils indolents. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.